le peuple juif, dans cette affaire-là, dans l'affaire de l'universalisme, dans l'affaire du scandale que constitue son élection, considère, ou en tout cas est héritier d'une tradition dans laquelle il est dit qu'il est Am Nivhar, c'est-à-dire peuple élu ou choisi, peuple consacré. On parle aussi de nation de prêtres, de nation solitaire. C'est ce que constate Bilam et qui est sans cesse réaffirmé dans l'histoire juive, ce peuple qui se tient à l'écart, qui est dans une nécessaire séparation. Alors, on peut se poser la question, et on va en parler dans Le Fait juif et dans l'apologie de Mendelssohn, est-ce que le judaïsme est originellement un communautarisme? Ce sera un paradoxe, puisque de fait, sa fondation, c'est la sécession que fait Abraham de sa terre, de son lieu, de sa famille. Et donc, on peut imaginer que le judaïsme commence par une extraction, au contraire d'une communauté. En tout cas, l'élection, le sentiment d'élection n'apparaît qu'en deuxième lieu, après l'affirmation d'une origine unique de l'humanité. La Torah ne commence pas par l'élection, elle ne commence pas par le peuple juif, elle commence par l'universel. Et puis, on entend parler du peuple juif à la sortie d'Égypte, un peuple qui n'est d'ailleurs même pas mentionné dans les 70 nations avant. Et ce peuple-là, on en entend parler comme peuple choisi dans le cadre de l'alliance du Brit qu'il faut garder entre le plus petit des peuples, c'est comme ça qu'il est appelé, et Dieu qui se lie à ce peuple par amour. C'est une alliance donc qui scelle l'élection et aussi dont le tiers est la Torah, puisqu'il n'y a pas de Brit sans Torah. Donc le livre de Elie Schoenfeld met l'accent sur une notion qui est propre à celle de Mendelssohn, à la théorie de l'élection de Mendelssohn, puisqu'il parle de religion révélée et de législation révélée. C'est une double révélation qui concilie l'universalisme et l'élection chez Mendelssohn, l'homme qu'on appelait le Socrate de Berlin. Alors, on a une approche souvent polémique, surtout dans le judaïsme traditionnel et orthodoxe, d'un penseur comme Mendelssohn, puisqu'il est à l'origine du mouvement de l'émancipation juive. L'émancipation, ça n'est pas forcément l'assimilation. L'émancipation, c'est la modernisation ou l'adaptation de l'existence juive en gardant l'identité juive, alors que l'assimilation, c'est une disparition de l'identité juive au cœur des nations. Alors, effectivement, Mendelssohn est ce penseur que beaucoup pourraient juger décadent d'un point de vue orthodoxe, mais qui, au point de vue juif, est un homme qui a vécu toute sa vie dans l'orthodoxie, qui a traduit la totalité du Tanakh en allemand, mais qui l'a écrit, qui a écrit l'allemand en lettres hébraïques, considérant que tout juif, même s'il veut accéder à une traduction, et on va parler du problème de la traduction, on va peut-être même commencer par ça, doit le faire dans les lettres juives, dans ce que Jean-Claude Milner appelle les lettres carrées, le mystère des lettres carrées. Donc Mendelssohn a été un penseur effectivement de l'émancipation, de l'Aufklärung, des lumières juives, mais campé sur les valeurs juives et rechignant au défi que lui avait lancé Lavater de se convertir à ce que Lavater appelait la religion universelle, nommément le christianisme. Donc, on va parler de la traduction à travers un texte dont on va faire l'étude avec Elie Schoenfeld, et puis la traduction n'est absolument pas absente, le problème de la traduction n'est pas absente du Fait juif de Jean-Michel Salanskis. Alors, cette élection, il est normal qu'elle ait posé problème aux religions ultérieures, qui sont toutes nées du judaïsme, d'où certains problèmes historiques dont on n'a pas fini de parler, c'est-à-dire les revanches violentes qui ont été infligées par ceux qui se sont sentis dépositaires d'une nouvelle révélation ou d'une nouvelle alliance. C'est ce qu'on pourrait appeler des violences universalistes. L'universalisme a ceci de particulier, qu'il a comme ça l'apparence d'un rassemblement, d'une volonté inclusive, mais qu'il est aussi tout en un une aspiration qui a des précédents violents. La persistance de l'aspiration à l'élection juive paraît aux autres nations comme un refus, alors soit du Messie de Bethléem, soit du prophète de Médine, soit de la raison philosophique, soit une contestation de l'universel, de ce rassemblement qui est un peu imposé. L'expérience collective juive apparaît au mieux comme quelque chose de naïf qui reste archaïque, ancien, ou bêtement réactionnaire, n'acceptant pas les nouveaux messages, ou au pire arrogante avec une élection qui serait exclusive des autres. L'idée chrétienne, que tout le monde doit être sauvé, a quelque chose d'irascible. C'est compliqué pour les chrétiens d'imaginer qu'il reste ce peuple qui n'a pas été sensible au messianisme chrétien. Le Messie serait advenu, et donc l'être juif, cet être pour le commandement, vous en parlez tous les deux, en quelque sorte lui fait obstacle. Le cosmos post-juif voudrait être homogène et sans altérité. C'est un peu aussi le sens de l'aspiration à l'universalisme. Pour Spinoza, puisqu'on va parler aussi de Spinoza beaucoup dans votre livre, vous soulignez quelque chose de très intéressant qui est la notion que Spinoza traite Dieu comme substance infinie, et donc tout est expression de Dieu, et donc tout est élu de Dieu, et donc l'élection juive dans ce cas-là est remisée. Et il y a une tension toujours dans l'histoire entre ce que vous appelez la révélation et la raison, et donc il faut le dire, entre la religion et la philosophie. C'est-à-dire que le monde orthodoxe juif et la philosophie se sont toujours regardés en chien de faïence, la philosophie étant forcément du côté de l'aspiration à l'universel. D'ailleurs, Jean-Claude Milner racontait récemment comment il s'étonnait du fait que l'universel est en quelque sorte le mantra de la philosophie. Alors je vais peut-être vous demander, Jean-Michel Salanski, ce que vous pensez de cette réflexion-là.
Donc vous me demandez de ne pas faire mon exposé.
Si. Donc, mais vous allez le faire dans un second temps, pour notre plaisir.
Je vais vous demander de dire Salanski, qui il se trouve que seul mon père écrivait Caïs pour faire lituanien.
C'est écrit là.
On n'a jamais prononcé autrement. Pardon, oui, je ne parle pas dans le micro là. La question posée c'était sur l'universel. Pourquoi l'universel est le mantra de la philosophie?
Oui, pourquoi la philosophie est obsédée par l'universel?
Alors, moi, ce que j'avais prévu justement dans l'exposé que j'ai préparé, c'est de commencer par une section sur la valeur de l'universel. Très bien. Alors, s'il fallait répondre techniquement à votre question, ça me paraît pas sûr que la philosophie ait toujours valorisé l'universel. En particulier dans le contexte le plus contemporain et en France, on a rencontré des tas de gens pour qui l'universel en philosophie c'est l'ennemi. Donc en fait, quand on défend l'universel de nos jours en philosophie, on se sent minoritaire et assiégé. Il y a eu un numéro de critique qui s'appelait Le retour de l'universel, qui faisait état du fait de l'existence de quelques penseurs bizarres qui défendaient l'universel, au nombre desquels j'étais. Mais c'est une cause qui ne va pas de soi dans la philosophie, je voulais commencer par le rappeler. La valeur de l'universel. Donc la question c'est, qu'est-ce qui dans notre culture signale l'universel comme une valeur, hein? Est-ce qu'on peut expliquer le prix qu'on attache ou qu'on peut attacher à l'universel? Dans un premier temps, l'universel est une valeur théorique. Un aspect de ce qui intéresse la philosophie, c'est l'aspect théorique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de former des discours cohérents et construire une connaissance du monde, disons, cet ensemble-là. Hein. Ce qui quelquefois s'appelle de façon plus de façon plus pédante le théorétique. On commence par la physique. L'humanité est fière de la physique. Hein. Je crois qu'il est difficile de ne pas être fier de la physique. Quand on a découvert le boson de Higgs, nous nous sommes tous enorgueillis, un peu comme au moment du voyage lunaire. On sait que la physique, c'est quelque chose qui arrive à être incroyablement compliqué et qui en même temps obtient des succès à l'égard du réel incroyables. En particulier, la mécanique quantique, c'est une théorie étrange, difficile à comprendre, où il faut avoir fait des mathématiques à peu près du niveau M1, M2 pour comprendre la mécanique quantique, alors que normalement c'est plus facile. Par exemple, la mécanique newtonienne, c'est beaucoup plus facile. Et néanmoins, la mécanique quantique traverse un nombre d'applications absolument incroyables. Les lois de la physique s'énoncent de manière universelle. Je prends la loi la plus simple et la plus connue, F égale MA, la loi de la mécanique newtonienne, ça s'affirme universellement. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas universellement par rapport à quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une loi qui est vraie de toute particule matérielle? C'est vrai, on peut le prendre sous cet angle-là. Mais aussi, on peut dire que ça quantifie sur toute accélération d'une trajectoire ou toute force. Et ça, c'est des vecteurs, c'est des objets mathématiques. Donc, l'universel de la physique, on en est fier parce qu'on est fier de la physique, et cet universel, il est composite. Il est à la fois un universel qui quantifie sur toutes les choses du monde et qui en même temps quantifie sur une pluralité elle-même universelle d'objets mathématiques. Maintenant, je passe à un autre lieu où l'universel apparaît dans sa splendeur et qui est pour moi infiniment important, qui est celui des mathématiques. On sait que le grand progrès incroyable des mathématiques au cours, non seulement du siècle précédent, du XXe siècle, mais même après 1940, plus ou moins, ou après 1930. Ce grand progrès est à beaucoup d'égards une chasse à l'universel. Les grands gestes merveilleux de la mathématique consistent à gagner un universel que personne n'avait aperçu auparavant. Alors, il y en a un qui est extrêmement connu parce qu'il y a une histoire sentimentale et un jeune homme tourmenté derrière, donc c'est presque on est presque dans un film romantique, c'est Évariste Galois. Et donc lui, il invente la structure de groupe. Et donc brusquement, on voit quelque chose qui est commun à l'addition des entiers relatifs et aux permutations d'un ensemble fini, mettons. Et encore des tas d'autres choses, le groupe des isométries du plan, de l'espace, etc. Donc il y a une exaltation devant le fait d'avoir gagné cette structure de groupe qui met en lumière dans un unique formalisme une multiplicité de situations mathématiques incroyables. Donc, mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans la mathématique, cette captation ou cette invention de l'universel, elle est toujours à recommencer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la structure de groupe, par exemple, on va essayer de généraliser en identifiant l'identité logique des axiomes définissant un groupe, et on va voir qu'il y a des tas de théories du premier ordre qui ont le même schéma logique, et donc ça nous donne une généralité encore plus grande, toutes les théories qui correspondent à ce schéma logique. Ou encore, il y a la couche de la théorie des catégories, où brusquement on va dire que les groupes constituent une catégorie, mais il y a des tas de catégories. Donc la structure de groupe, elle est vue dans un universel de la structure de catégorie, qui est un universel encore plus vaste. Donc retenons cette idée que l'exaltation qui est la nôtre devant l'universel, c'est pas un universel qui est donné, qui est simple, qui est transparent, mais c'est un universel qu'il faut capturer, et une fois qu'on l'a capturé, il faut le capturer encore mieux. Bon. En logique, là aussi, il y a une valeur de l'universel. J'ai un ami qui est un des jeunes philosophes pour lesquels j'ai de l'affection et de l'admiration, qui est Brice Halimi, qui insiste toujours sur le fait que la logique revendique deux choses, son universalité et sa radicalité. Son universalité, c'est le fait que aucune proposition de la langue ne peut prétendre être indemne des exigences de la logique. Donc l'exigence de la logique, elle porte sur toute proposition déclarative de la langue. Et personne n'y échappe, donc ça c'est l'universalité. Et la radicalité, c'est qu'il n'y a rien comme exigence fondamentale pesant sur le langage au-delà de l'exigence logique. Ça apparaît comme l'exigence ultime, la plus profonde ou la plus décisive. Il y a une autre manière dont l'universel est valorisé dans notre monde. Ce dont je veux parler, c'est la valeur éthique de l'universel. Et là, je crois que ce que nous avons tous en tête, c'est la doctrine kantienne. Et donc, dans la critique de la raison pratique, nous apprenons que l'universalité peut être regardée comme le critère du bien, puisque une bonne maxime, quelque chose qui donc peut être appelé une loi pratique pure dans le discours kantien, ben c'est une maxime que je peux émettre en sachant que tout législateur cherchant à énoncer la loi valant pour la société des êtres raisonnables émettrait aussi. Donc l'universel est le critère de deux manières. À la fois, on pense toujours la maxime qu'on va s'appliquer comme la bonne maxime au niveau de tous les sujets de la société des êtres raisonnables, et aussi on pense à tout législateur, tout sujet pris comme législateur. Donc le domaine qui résisterait le mieux éventuellement à cette valeur de l'universel, ce serait le domaine esthétique, hein. Mais, et encore, si je reviens à nouveau à la conception kantienne du domaine esthétique, le beau est défini comme ce qui plaît universellement sans concept. Donc, je voulais d'abord parler de ça pour mettre en évidence le fait que ça ne va absolument pas de soi de tourner le dos à cette valeur de l'universel. Elle s'impose à nous, non pas comme un garde-chaume pénible, mais comme quelque chose qui nous laisse haletant. On a envie de poursuivre cet universel. On se sent pas à la hauteur de l'universel. En fait, les sentiments qu'on a vis-à-vis de l'universel sont un peu ceux qu'on doit avoir vis-à-vis de la grandeur de l'exigence de la loi juive.
On a envie de citer Schopenhauer qui dit que Kant, c'est le décalogue à ce moment-là pour nous rapprocher de ce dont nous sommes censés parler, c'est-à-dire le rapport de l'universel et du judaïsme. On a pu dire que l'universel représentait une sorte d'impérialisme, forcément, qu'on imposait, qu'une ethnie ou une religion qui impose son éthique. Benno Gross a qualifié la tentation de l'universel, conçue comme un impérialisme qui cherche à embrasser le tout, est une impatience, un faux messianisme qui ne tient pas compte de la finalité du temps. On pense évidemment à Lévinas et à sa critique de la philosophie dans les premières pages de Totalité et Infini. Et il se trouve que le judaïsme, qui est une religion non prosélyte, éminemment privée, elle fait sécession en proposant une universalité un peu scandaleuse, comme à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a un universel pour le peuple juif et un universel pour le monde. Alors on va peut-être parler de ce qui a été en quelque sorte l'interface entre le judaïsme et le reste du monde, c'est la traduction, puisque vous êtes venu, Elie Schoenfeld, avec un texte, qui est un texte de Limoud pur, qui concerne la première fois qu'une traduction de la Torah a été faite, et comment elle a été faite. Alors on ne sait pas si c'est légendaire ou pas, mais c'est la première traduction grecque, si vous pouvez nous en parler.
Avant de commenter ce passage talmudique, et un peu dans la suite de ce que Jean-Michel Salansky a dit, j'aimerais me risquer à une hypothèse qui a trait à cette question de l'universalité, et je parlerai uniquement du deuxième genre d'universel que vous avez présenté, parce que je pense que c'est celui qui est en question, en tout cas chez les auteurs qui m'intéressent à moi et dans la philosophie juive moderne et contemporaine en général. Et mon hypothèse, c'est que, et vous avez évoqué Kant, c'est que la question de l'universel pour le juif est une question moderne. Ça veut dire que ce n'est que dans la modernité, et pour dater la chose de manière un peu sommaire, mais j'y tiens quand même, ils ont à partir de Spinoza, qui en fait un critère de vérité. Alors, à partir de Spinoza, et peut-être en réponse à Spinoza, qui, comme vous le savez, formule une critique radicale du judaïsme dans le traité théologico-politique, ce n'est qu'à partir de Spinoza que la question de l'universel devient un problème, disons, central dans la pensée juive. Il faudrait faire quelques réserves, mais je me risque à cette hypothèse Car si vous prenez les grands moments de la pensée juive avant Mendelssohn, avant Spinoza, c'est évidemment la pensée juive du Moyen-Âge, vous verrez, si on prend par exemple le Guide des Égarés du Rambam, eh bien cette question ne se pose pas dans le Guide des Égarés du Rambam. Le Guide des Égarés de Maïmonide traite la question de la providence, traite la question de la création du monde, traite la question des Tamer Mitzvot, du
sens de la raison.
Oui, de la raison, mais pas, ce n'est pas un problème central qui autour duquel on va essayer d'organiser une pensée pour y répondre. Or, c'est exactement avec cela que Mendelssohn commence son travail. Il dit, voilà, le critère de vérité, je reprends donc cette idée du critère de vérité, c'est un critère d'universalisme. Et puis, on peut voir chez Hermann Cohen, Rosenzweig est un cas à part, mais et chez Lévinas, comment c'est un thème qui revient. Donc, je commence par pointer cette particularité de la pensée juive moderne, et en pointant cette particularité, je pense pointer un souci qui est le nôtre, c'est-à-dire si c'est un problème qui surgit pour la première fois dans la pensée juive moderne, c'est que nous, en tant que modernes, nous sommes concernés par cette question. Elle se pose à nous. On a l'impression qu'il faut répondre à cette question, enfin, pour des raisons politiques, pour des raisons d'intelligence. Je ne veux pas maintenant m'aventurer dans des hypothèses de répondre pourquoi c'est dans la modernité que cette question se pose. Mais je pense que c'est une question qui nous concerne en tant que nous sommes modernes, en tant que nous sommes des juifs modernes. Et il est intéressant de voir que ça commence avec justement des auteurs comme Spinoza en tant que critique du judaïsme et Mendelssohn en tant que premier penseur juif de la modernité qui donc formule la question de l'universalisme comme critère pour la vérité de toute religion. Il dit que toute religion qui n'est pas universaliste, elle n'est pas vraie. Le critère de vérité, c'est l'universalisme. Alors pourquoi ce préliminaire et pourquoi il m'importe de pointer ça avant de passer à la Sougia qui m'intéresse, c'est qu'il va falloir, donc si ce n'est pas un problème, si vous voulez, classique, au sens où le classicisme juif c'est le Talmud, eh bien on ne va pas trouver cette question en tant que telle dans le Talmud. Cette question ne se pose pas chez les maîtres d'Israël, encore une fois, en tant que telle. Il faut donc trouver un moyen pour poser cette question, et j'ai choisi un texte que Lévinas commente dans « À l'heure des nations », qui est en effet le texte dans « Maseret Megillah », page 8b et 9a, où il est question de traduction. Alors, la question de la traduction, et c'est là où il faut être un peu, si vous voulez... flexible dans la pensée, il faut concevoir la question de la traduction comme la question de l'universalisme posée par des sages pour qui cette question n'était pas une question, si vous voulez, théorique. Ça a des implications dans l'existence. Il faut poser la question, peut-on traduire la Torah dans d'autres langues ? Car s'il y a une chose qui marque un peuple dans sa singularité, c'est bien la langue. La langue, elle est... Voilà, nous vivons dans des sociétés, dans des communautés, nous appartenons à des peuples qui, chacun, a sa langue. La langue est ce qu'il y a, si vous voulez, la marque de l'inuniversel par excellence. Nous ne parlons pas tous la même langue. Et si on veut communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue, eh bien, il faut traduire, il faut... etc. Donc la question de la traduction, c'est la question de la possibilité de justement retraduire un propos qui est dit dans une langue particulière, voilà, de traduire dans un langage qui est autre. Alors, le passage en question, je vous le lis, c'est le suivant. Dans la Mishnah, on a l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel qui nous dit la chose suivante. Pour les livres saints, donc il est question de la Torah évidemment, les maîtres n'ont autorisé comme autre langue que leur écriture en grec. Donc l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est qu'on peut traduire la Torah que en grec. Alors, je vous donne immédiatement la lecture lévinassienne de cette Mishnah. Le grec, c'est le langage universel. Le grec, c'est le langage de la philosophie. Donc, voilà, un sugya, voilà, passage talmudique où il est question de la possibilité justement d'universaliser, puisque le grec c'est pas simplement la langue grecque, l'idiome, mais c'est en général les concepts, c'est la logique, c'est tout ça qui fait qu'un langage peut être accessible à tout le monde. Et la Gemara commente, et voici l'histoire que la Gemara ramène, vous la connaissez peut-être, je vous la lis. Rav Yehuda dit, même quand nos maîtres ont autorisé le grec, ils ne l'ont autorisé que pour traduire le Pentateuque. Et cela à cause de l'événement référé au roi Ptolémée, qui a réuni 72 anciens et les a fait entrer dans 72 petites maisons et ne leur a pas dit pourquoi il les y fait entrer. Visitant alors chacun en particulier, il leur dit, donc Ptolémée s'adresse aux 72 et il leur dit « Écrivez-moi en grec la Torah de Moïse, votre maître. Quitte vous lit Torah Moshe Raprem. » Donc, il les sépare et il les oblige à traduire la Torah en grec. Le Seigneur a inspiré chacun, Tan Etsa Belev Kolechad, et ils se retrouvèrent dans la même pensée. Ils ont écrit pour lui. Donc ils ont traduit la Torah de la même façon. Ce qui est un miracle, puisque bon, c'est bien que si on donne aux uns et aux autres de traduire un texte, ben, il y aura autant de versions qu'il y a de personnes qui se sont invitées à traduire. Or, il y a eu un petit miracle, la Gemara dit Nathan Etza, c'est pas vraiment un miracle, mais il y a une marque de la providence, comme quoi ils ont tous traduit à l'unisson. Alors, on peut imaginer que c'était une épreuve que Ptolémée met la Torah à l'épreuve de l'universel. Ça veut dire, il pose la question, en fait, il se pose la question, et se posant la question, il met un défi à ses 72, eh bien, est-ce que votre Torah, elle dit la vérité? S'il y a 72 différentes traductions, c'est que cette Torah, elle ne dit pas la vérité, puisqu'elle dit 72 choses différentes. Donc, c'est une vraie épreuve. Et d'ailleurs, quitte vous lit Torah de Moshe Raphaël, c'est une lachonne de Xéra, c'est un langage de... C'est une menace. Qui te vous lit, Torah, mon cher, c'est une menace. Ils sont menacés. Et d'ailleurs, la mise en scène, elle est tout à fait claire. On les sépare et on va voir si... Bon, l'histoire, elle se complique puisqu'ils ont tous traduit à l'unisson, sauf 15 différentes places où ils ont changé le sens littéral du texte. Mais on voit ici qu'il y a donc un épisode où c'est sous la menace que la traduction est autorisée.
Et ça reste un jour d'affliction quand même.
Alors, j'y viens, puisque dans ce passage, il n'est pas question de jour d'affliction, c'est un autre passage. Mais Lévinas, donc, qui s'intéresse de près à ce genre de passage talmudique, puisque lui, il cherche dans la Gemara, dans le Talmud, de quoi justifier justement cet acte de traduction. Et Lévinas a toujours dit que la pensée juive, c'était un acte de traduction. Dans un texte qui s'intitule Assimilation et culture nouvelle, il dit il faut accomplir l'œuvre de la Septante. Et dans d'autres textes, Lévinas dit, à propos de cet épisode, il dit voilà une certaine assimilation à l'Europe que les docteurs du Talmud ne repoussent pas comme purement négative. Autre passage, c'est cette entrée du grec dans la Bible, c'est cette alliance entre la Bible hébraïque et le grec, c'est cette assimilation qu'autorise la page 9b de Megillah en relatant le miracle de la concordance des 72 traducteurs. Et puis, dernier passage, Lévinas dit, on ne doit traduire la Bible qu'en grec, mais peut-être aussi en grec, il faut la traduire. Donc, le penseur juif de la modernité trouve dans ce passage talmudique une justification pour justement philosopher de manière juive, c'est-à-dire retraduire des concepts qui viennent de l'horizon de la Torah dans un langage qui est accessible à tous. Peut-être tout de suite je vais ajouter un autre élément. Ce que Lévinas ne dit pas dans son commentaire talmudique, c'est que c'est fait sous la contrainte. Ce que Lévinas ne dit pas dans ce texte talmudique, c'est que l'initiative ici, elle n'est pas des 72. C'est Ptolémée qui convoque les 72, qui met à l'épreuve, qui défie justement. Donc, d'où une certaine ambiguïté dans le langage de Lévinas, dans la manière que Lévinas a de reprendre ce passage talmudique et d'en faire voilà, la garantie pour son mouvement de pensée à lui, mais il omet, en tout cas il ne lit pas, en tout cas il ne commente pas, il n'est pas attentif, en tout cas il ne souligne pas le fait que, en vérité, c'est sous la contrainte.
Il y a violence.
Et il y a violence. Alors juste parce que c'est une leçon que je tiens de mon maître Béni Lévy. Il disait, voilà, vous voyez, Lévinas ne dit pas ce qui est essentiel pour comprendre ce texte, qui est que l'universalisation se fait sous la contrainte. Il n'y a pas d'initiative. L'initiative n'est pas autorisée, elle n'est pas recommandée, d'où une certaine possibilité, je dirais, que ce texte nous enseigne. On peut traduire la Torah en grec, mais dans certaines conditions, et il n'est pas sûr que c'est recommandé.
Alors, on va un peu rentrer dans l'affaire chrétienne de l'universel, qui fait suite à l'advenue en quelque sorte du Messie chrétien en quelque sorte au marketing de cette religion par Saint Paul de Tarse lorsqu'il dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus-Christ. On parle véritablement d'universalisme dans Matthieu, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans cette volonté qui est inédite en fait au moment de l'advenue entre guillemets la bonne nouvelle, on voit véritablement naître une nouvelle forme d'universalisme. Et lorsque vous parlez de cette violence qui est faite de traduire la Torah et de la requérir sur le mode du défi, on voit déjà s'approcher cette violence-là. Alors, est-ce qu'il y a, peut-être je m'adresse à vous, Jean-Michel Savansky, est-ce qu'il y a toujours cette nuance de menace, de la volonté d'être dans l'universel? Est-ce que le juif ressent toujours de la part de l'exigence de l'universel quelque chose de l'ordre d'une menace?
Oui, je ne pourrais pas vous répondre à cette question parce que vous l'avez bien compris, moi je ne prends pas l'universel comme une force dans l'histoire, mais comme une exigence à la hauteur de laquelle nous ne sommes pas. Donc l'universel pour moi c'est un des modes de autrement qu'être, disons. C'est un des trucs qui vaut le coup dans l'existence humaine. Un des trucs qui nous dépasse, on est mauvais, mais on peut essayer de travailler à faire mieux. Et donc je vous réponds en entamant une petite tentative de réfléchir et de discuter sur le lien entre l'affaire de l'universel et le projet juif, disons. Et donc le point de départ de la réflexion, pour moi, c'est la constatation du fait que le projet juif se présente comme une sorte de particularisme universaliste. C'est-à-dire que c'est un projet séparé. Ce qu'il s'agit, c'est de réaliser l'étude d'observance au niveau d'un peuple. Un peuple va être un laboratoire à l'intérieur duquel on va développer l'étude d'observance. Et c'est pas au niveau de l'humanité.
Alors peut-être vous pouvez, parce que c'est un concept central de votre livre, définir même brièvement ce concept d'étude d'observance qui est le centre de la vie juive.
Donc j'utilise le concept d'étude d'observance avec un tiret, parce que ce qui va de soi, c'est l'observance des mitzvot. L'observance des mitzvot, elle est requise dans le peuple juif et pas en dehors du peuple juif. Mais il y a un lien profond de cette observance des mitzvot et de l'étude, que j'explique dans le livre. le lien le plus évident, c'est qu'il faut étudier pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est exactement demandé dans chaque mitzvah. Mais il y a un autre lien, c'est que l'étude elle-même est commandée. Et si on a la conception du Maharal de Prague, ce qui est visé, c'est des gens qui observent les commandements en pénétrant complètement la profondeur conceptuelle de l'image du monde humain donnée par la Guémara, par la discussion de la Guémara. Donc ça, c'est un projet qui a lieu au niveau du laboratoire d'un peuple. Mais en même temps, et c'est des choses que par exemple dit Rambam dans le Guide des Égarés, il est clair depuis toujours qu'il y a quelque chose d'exemplaire dans cette voie, et donc notamment les vues sur le monde humain qui sont dégagées par la discussion de la Guémara sont potentiellement instructives pour tous. Et même il y a l'idée qu'au temps messianique, il y aura convergence entre la recherche éthique qui aura été celle de l'humanité universelle et le projet séparé du peuple juif. Mais jusqu'à nouvel ordre, les exigences de l'étude observance ne concernent que les juives et les juifs. Alors on peut prendre ça comme problématique d'abord en première personne. Et si on prend ça comme problématique en première personne, on va remonter à la définition kantienne de la bonne maxime. Et donc on va dire que celui qui choisit d'observer tel ou tel commandement, il est en train de contrevenir à la définition kantienne de la détermination de la bonne maxime, puisque il est en train de faire quelque chose tout en considérant que ça n'est pas commandé à tout le monde. Donc on est dans un pur cas de transgression du bien kantien. Alors, c'est vrai que, à mon avis, l'entrée juive sur la question éthique, en dernière analyse, n'est pas qu'ancienne. Et là, de ce point de vue-là, je reçois le grand progrès dans le vieux débat sur les fondements de la moralité qui habite la philosophie depuis si longtemps. Il y a un grand progrès qui a été apporté par Lévinas, qui présente la moralité comme émanant du visage. Et je pense que c'est beaucoup mieux adapté à une compréhension de la tradition juive et de la façon dont la tradition juive prétend assumer l'exigence éthique. Et bon, j'ai même écrit un article où je fais un lien entre la particularité d'autrui, parce que dans le dispositif de la façon dont je reçois la moralité chez Lévinas, je la reçois d'un cas singulier, en quelque sorte. Le visage est toujours un cas singulier. Et je fais une analogie entre ça et la particularité de la halakha. Et de fait, le rapport des juifs à la halakha, ça donne au peuple juif une sorte de statut de personne. C'est comme si le peuple juif était une personne qui avait reçu le commandement de la halakha comme d'un visage. Bon. Alors, cela dit, je fais une observation, c'est que on peut comprendre de manière universaliste le fait de s'infliger la halakha. Et ça, on peut le faire. Ça ressemble un peu à un débat qui est connu dans la philosophie morale analytique. Vous savez que dans la période contemporaine, les gens qui se sont intéressés à la philosophie morale, c'est pas la philosophie franco-allemande dont nous sommes le plus familiers. C'est les philosophes analytiques qui ont essayé de chercher comment on pouvait justifier certaines théories morales et pas d'autres, quelles étaient les manières de donner un fondement à la morale, et ils ont essayé de débroussailler tous ces problèmes avec la technique de clarification et d'argumentation qui est la leur. Et donc eux, la grande tension qui est reconnue par les philosophes analytiques de la morale, c'est la tension entre les points de vue conséquentialistes et les points de vue déontologistes. Le point de vue déontologiste consiste à dire que la morale, elle existe comme devoir. La morale, c'est l'ensemble des devoirs, et les devoirs sont toujours éprouvés de manière singulière. Donc il n'y a morale que pour autant que moi, j'éprouve singulièrement un devoir. Inversement, les conséquentialistes posent tout de suite le problème de la morale au niveau du bien et de la distribution du bien dans l'ensemble de l'humanité, et donc un comportement est bon s'il maximise, alors par exemple l'utilité au niveau de la collectivité humaine, ça c'est le point de vue utilitariste, mais plus généralement dans un point de vue conséquentialiste, quelque chose sera bien si quand on calcule l'ensemble des conséquences, ça distribue du bien, de l'amélioration. Alors évidemment la faiblesse des points de vue conséquentialistes, c'est qu'on perd l'interpellation singulière, on perd le fait que la morale, elle tombe sur moi. Et les philosophes analytiques de la morale, ils mettent ça en lumière en prenant des exemples. Ils disent, du point de vue d'un utilitariste, par exemple, si je dois aller visiter ma cousine à l'hôpital, éventuellement, c'est pas la manière dont je vais maximaliser le bien dans l'humanité. Et donc, je devrais faire autre chose. Mais si je comprends la morale, je comprends que visiter ma cousine, c'est à moi que ça incombe. Et donc, le déontologiste reprend l'avantage, parce qu'il décrit quelque chose de notre expérience morale, c'est que la moralité nous incombe. Alors, les conséquentialistes essaient de récupérer à leur profit l'avantage que prennent les déontologistes. Et ils disent, on peut s'en tirer en disant, pour maximiser le bien dans l'humanité, il faut que les gens éprouvent des devoirs. Et donc, on va choisir un système de devoirs dans le but ultime de maximiser la distribution du bien dans l'humanité. Et donc, on reconnaît que ça va passer par un système de devoirs que chacun reconnaîtra comme pesant sur soi singulièrement. Et donc, on arrive à pouvoir justifier, c'est ce que fait Putnam dans un entretien avec Christian Bouchendom, qui s'appelle Définition, qui a été publié aux éditions de l'Éclat. Bouchendom lui demande, comment est-ce que vous, qui êtes pragmatiste, vous pouvez justifier le fait que vous observez les commandements de la loi juive? Et il dit, je considère qu'il faut maintenir dans l'humanité la voie vers le bien collectif qui est définie par les juifs dans leur laboratoire, et il faut que ça survive pour que ça reste à la disposition de l'humanité, et donc pour que ça survive, il faut qu'il y ait des gens qui observent, et c'est pour ça que j'observe. Donc vous voyez comment on peut éventuellement retrouver une manière de justifier le particularisme de l'étude observance par ce genre de raisonnement qui figure dans la discussion internationale de la philosophie analytique. Deuxième manière de poser le problème, je le pose plus de manière personnelle, mais je le pose au niveau de l'élection. Et donc, ce qui est, alors ça a déjà été évoqué hein, par tout le monde, le scandale de l'élection. Alors, l'élection, elle consiste dans le fait que les juifs ont à suivre la voie de l'étude observance pour l'accomplissement éthique. Là, je commente simplement la fameuse phrase « Le juste des nations est l'égal du grand prêtre ». Donc ça signifie que le but de tout être humain, c'est d'arriver à l'excellence éthique, mais si vous êtes juif ou juive, vous avez à passer par l'étude d'observance pour éventuellement satisfaire à cette exigence. Tout le monde a sa chance d'atteindre le but, le Graal, qui est l'excellence éthique, mais simplement pour les juifs,
il y a un chemin.
Il y a un chemin. Alors, j'essaie toujours de prendre des exemples pour dédramatiser cette élection. Hein. Donc, ça revient en gros au fait qu'un Allemand n'est pas soumis à l'impôt français. Voilà l'exemple que je prends d'habitude. Hein. Mais j'ai trouvé que cet exemple était insuffisant. Alors, j'en ai un autre qui est... Alors, il est meilleur, à mon avis, mais il a le défaut d'être un peu limité à l'espace professionnel qui a été le mien pendant de longues années. J'ai siégé dans des comités de sélection où on recrute des enseignants-chercheurs pour devenir maître de conférence dans une université. Et souvent, on a des dossiers de gens qui sont étrangers, qui sont italiens ou allemands. Hein. Et dans un tel dossier, eh bien, le fait que cette personne qui est italienne ou allemande n'ait pas passé l'agrégation ou ne soit pas ancien élève de l'école normale supérieure n'est pas un déficit, puisque c'est quelqu'un qui est italien ou allemand. Hein. Inversement, on est moins sûr que ce soit le cas pour un Français. Et donc là, vous voyez que les Français sont élus. C'est-à-dire que pour être reconnu comme compétent pour le métier d'universitaire professionnel, on soupçonne que peut-être il serait requis d'avoir validé un de ses concours. Donc on voit ce que c'est que l'élection. C'est un emmerdement terrible, en l'occurrence. Hein. Alors, Lévinas nous enseigne que tout être humain connaît l'élection devant le visage. Et là, ce qu'il souligne, c'est un autre aspect de l'élection, c'est que autrui nous incombe et cette obligation est incessible. Hein. Donc ici, l'élection, ça veut dire que les commandements qui me tombent dessus, je ne peux pas les renvoyer vers quelqu'un d'autre. Hein. Je ne peux pas tourner la tête en considérant que c'était quelqu'un d'autre derrière qui était concerné. Donc là, dans cette modalité, Lévinas nous donne à comprendre la structure de l'élection comme une structure universelle. Le fond de l'éthique est une élection. Et c'est ce qui fait que l'éthique est insupportable. Autre chose que je rappelle, c'est que la tradition juive voit le fait que la grandeur de l'humanité réside dans le fait que l'humanité assume l'obligation, c'est pas propre aux juifs, c'est la vision juive de l'humanité en général, et nous le voyons avec la conception de l'humanité noachique, qui elle aussi est sous l'obligation d'un système de...
Alors là, vous ouvrez un grand chapitre, on va...
Donc, voilà un premier niveau de la discussion. J'en ajoute un maintenant qui est celui de l'étude et la rationalité. Une autre manière de se poser le problème du rapport entre le projet juif et l'universel, c'est se demander quel est le statut de l'étude juive du point de vue de la catégorie ou de l'exigence de l'universel. Alors, il me semble que la première chose qu'il faut dire, c'est que l'étude cherche un supplément d'intelligibilité. Les Chachamim retravaillent indéfiniment le problème de la loi et les textes dans lesquels ce problème est abordé et résolu, et ils cherchent sans arrêt à rajouter de l'intelligibilité, et cette recherche d'un supplément d'intelligibilité, elle reconnaît la forme universelle de la rationalité. Pensez au traité de logique publié par Maïmonide à nouveau, hein. Élie a évoqué celui dont il sait tout, dont il a tout appris, je fais la même chose, hein. À la fin de l'étude d'une halakha, souvent, Georges Ansel nous montrait un diagramme conceptuel, un arbre logique de l'embranchement des différents concepts qui étaient mis en jeu dans l'étude du problème de loi particulier, hein, et donc la structuration des catégories qui interviennent et la façon dont ça se ramifie, dont ça se distingue, dont ça entre en controverse, tout ça, ça relève de la logique universelle, hein. Donc il faut absolument s'inscrire en faux contre les gens qui essaient de voir la tradition juive comme un exemple du monde des nonas, pour citer un roman de Van Vogt dont vous avez peut-être entendu parler. Encore une chose qu'il faut dire à ce sujet, c'est qu'il y a un autre niveau qui correspond à un souci universel et qui est un souci profond, c'est celui de l'articulation de l'universalisme théorique et de l'universalisme éthique. Tout le monde a un pressentiment que les deux choses devraient avoir quelque chose à voir, qu'on accorde une valeur à l'universalisme théorique indiscutable, et puis en plus, comme j'ai essayé de le faire sentir et partager tout à l'heure, il y a un enthousiasme et une angoisse de mal faire par rapport à la grandeur de l'universalisme théorique. Et en même temps, on voit que l'éthique a une sorte de priorité. Par définition, si on comprend ce que c'est que l'éthique, on donne la primauté à l'éthique. Et donc on voudrait comprendre comment il peut y avoir ces deux instances également prestigieuses et infiniment vénérables qui sollicitent notre adhésion. Donc on cherche un attelage. Et évidemment, la grandeur du projet juif, c'est justement, à mon avis, le génie du projet juif, c'est d'avoir réussi un tel attelage. Et toute l'intelligence talmudique, tout le travail talmudique, c'est exactement la réussite d'un tel asnage. C'est-à-dire, c'est une mobilisation de la plus grande compétence rationnelle, de la plus grande exigence universelle de la logique et du traitement des catégories qui sont les nôtres à tous égards, des catégories du monde humain, en vue de l'éthique, puisqu'il s'agit toujours de trouver une loi juste et une loi qui permette à l'humanité de s'éveiller aux exigences de l'éthique. Et peut-être que ce qui fait la grandeur de cet attelage réussi dans la tradition juive, ça a à voir avec quelque chose que je voulais évoquer tout à l'heure, mais je l'ai sauté, et qui est le problème du domaine. Qu'est-ce que c'est que le problème du domaine ? Si vous faites de la logique, vous apprenez que quand on a un énoncé universellement quantifié, un énoncé du genre quel que soit x, p de x, un énoncé qui dit que tout x a la propriété p, hein, et si on cherche si cet énoncé est vrai ou non, si vous étudiez la sémantique de Tarski, Teitelbaum à l'origine, vous apprenez que vous ne pouvez répondre qu'en choisissant un domaine. Pour évaluer un universel quant à la vérité, il faut fixer un domaine. Il y a un domaine qui représentera le tout. Et donc ça donne des résultats. Et tout dépend du domaine. Si vous prenez l'énoncé, quel que soit x, x2 plus 1, différent de 0, c'est quelque chose qui est vrai dans R et qui est faux dans C. Donc le domaine est fondamental. Et alors, d'un autre côté...
Mara Shabbat commence sur les domaines.
Alors justement, je voudrais vous rappeler maintenant une citation de Lévinas, qui vient naturellement dans notre discussion. Lévinas, dans une de ses lectures talmudiques, soulève le problème du stalinisme de l'universel. Je lis la citation de Lévinas, hein. « Toute pensée généreuse est menacée par son stalinisme. La grande force de la casuistique du Talmud, c'est d'être la discipline spéciale qui cherche dans le particulier le moment précis où le principe général court le danger de devenir son propre contraire, qui surveille le général à partir du particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de surveiller le général à partir du particulier? Ça ne veut pas dire qu'on renonce à avoir un universel qui exprime la justice. Ça veut dire que cet universel, il faut sans arrêt le rediscuter, ce qui est une manière de reconnaître que le problème du domaine se pose. Si nous disons que l'universel tel qu'il est formulé dans notre justice, on n'est pas sûr qu'il marche à tous les coups, ça veut dire que sur les frontières du domaine qui est visé par cet énoncé universel de justice, il y a encore une discussion qui n'est pas close. Donc peut-être que la réussite de l'attelage est liée à la façon dont, dans la tradition juive, il y a eu une prise au sérieux du problème du domaine tel qu'il est révélé par la théorie des modèles contemporaines. Voilà, alors maintenant j'aurai une dernière partie, mais je ne vais pas la faire maintenant, qui correspondrait à évoquer les résonances du fait juif à la fin de mon livre.
Alors vous avez évoqué ce qu'on appelle les lois noahides. On peut dire que vous avez eu une phrase, je vous ai entendu prononcer une phrase dans une de vos conférences qui m'a beaucoup, c'est d'ailleurs une réponse à une objection qu'on faisait. Vous avez dit: la transcendance est la propriété la plus immanente de l'humain. Je trouve que c'est extrêmement juste et en même temps ça ramène aux différents rapports à la transcendance que l'on trouve dans les divers niveaux de la Torah. C'est-à-dire que là je me tourne plutôt vers Elie Schoenfeld, vous parlez de cette transcendance adamique. On parle de la transcendance noahide un peu plus tard, mais il y a d'abord effectivement une perception, puisqu'on est là vraiment dans l'universel, hein, puisqu'on est dans le domaine adamique où il y a seulement ce couple en rapport directement avec Dieu, il y a une première notion de la transcendance qui est complètement universelle et qui va aller de plus en plus vers quelque chose qui se contient, qui se restreint avec les lois noahides, puis avec la Torah. Comment est-ce que vous évaluez les différentes universalités qui sont dans tout le début du Pentateuque?
M. Mendelssohn en parle aussi beaucoup.
Oui, tout à fait. C'est Rosenzweig, il dit Dieu n'a pas créé le juif, il a créé l'homme. En fait, il faudrait dire Dieu n'a pas créé le juif, il n'a pas créé l'homme, mais il a créé le monde. Mais ça commence par la création de l'homme. Et en effet, si vous voulez, une notion qui m'est chère, que j'essaye de développer un petit peu dans mon livre, c'est la notion de l'être pour le commandement, qui est allusion à Heidegger, qui pensait l'homme comme l'être pour la mort. Et donc j'essaye de penser le statut, la forme de l'humain tel qu'il est pensé dans les textes juifs, comme l'humanité pour le commandement. Bon. Et en effet, on sait tous que le premier commandement est un commandement qui est adressé à l'homme. Quand Adam est dans le jardin, il lui est dit à Mikol, Atseagan et Chol Tochal, mais Etsada Tovara Lotochal, qui bio Motamut. De tous les arbres du jardin, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc ça, c'est un commandement. C'est-à-dire c'est la première adresse de Dieu à l'homme, pas aux juifs, à l'homme. Cette adresse, c'est un commandement négatif, tu ne mangeras pas. En fait, positif et négatif, tu mangeras de tous les arbres et d'un arbre en particulier, tu ne mangeras pas. Et voilà, c'est si vous voulez, la situation première de l'homme dans le jardin d'Éden. Il est dans un rapport de commandement, il est commandé par Dieu. Or, il se fait que quand les Chachamim viendront plus tard pour formuler justement cette Torah qui est la Torah des nations. Donc, les fils de Noach, les Noachid, les Bnei Noach. Eh bien, dans Maseret Sanhedrin, la déduction qu'ils feront, Parce que ce sont des lois qui ne sont pas formulées explicitement dans la Torah. C'est pas comme pour vous qu'on a dans Bereshit ou tous les commandements explicites qu'on a, les 613 qu'on a. Les 7 mitzvot Bnei Noach ne font pas partie des 613 mitzvot. Ils sont déduites, c'est la Torah Be'al Peh. Ils sont déduites comme vaste nombre de mitzvot qu'on connaît. Et donc, quand les Chachamim dans la Sechet Sanhedrin viennent déduire les mitzvot des Bnei Noach, ils le font à partir du commandement qui a été donné à Adam dans le Jardin d'Éden. 6 des 7 commandements sont déduits du pasouk que je viens d'évoquer, et puis un dernier commandement qui est celui de l'extraction, de l'interdit de manger de la chair
d'un être vivant,
qui apparaît dans Parashat Nor. Donc il y a ici, dès le départ, en effet, une notion, si vous voulez, de l'universel, simplement, et ça c'est très important, en tout cas pour moi, et je pense que là il y a un différent avec Jean-Michel Salansky. C'est un universel qui suppose le commandement. Ce n'est pas un universel de la raison. C'est simplement que tous les humains sont en rapport avec la transcendance, et ce rapport est dit en termes de commandement. Alors, à ce propos, il y a une halakha du Rambam, de Maïmonide, fin de Sefer Melachim, de Hilchot Melachim, dont la postérité est extrêmement intéressante en ce qui concerne la pensée juive, c'est la halakha sur les Bnei Noach. Donc Maïmonide, qui est le premier, peut-être même un des seuls, il formalise la Torah des Bnei Noach. On a des Gemarot qui traitent des Bnei Noach, de toutes sortes d'angles, puis la déduction, etc. Le Ger Toshav, en effet, et le Rambam reprend toutes ces catégories-là, et à la fin d'Hilchot Melachim, il nous fait une synthèse, il nous formalise la Torah des Bnei Noach. Et le Rambam dit quelque chose de très important, il dit voilà, font partie des justes parmi les nations, les Chassidei Umot HaOlam, donc c'est pas les Chassidei Umot HaOlam de Yad Vashem, c'est les Chassidei Umot HaOlam dans le sens de la Halacha, eh bien ce sont les Noachides, simplement, et eux, ils ont part au monde qui vient, les Yishlem Chelek HaOlam Abba. Simplement, il faut qu'ils accomplissent les mitzvot parce qu'ils ont été commandés par la transcendance. Parce que ces mitzvot leur ont été imposées par la transcendance. Et non...
Par la raison.
Et donc, ils n'ont pas déduit de manière rationnelle. Mais l'homme est chréa hadat. C'est ça le terme que le Rambam utilise. Maintenant, il y a une très... beaucoup de choses à dire sur ce Rambam. Entre autres, ce qui est assez intéressant, c'est que cette distinction entre Echreada, c'est-à-dire celui qui accomplit les mitzvot parce qu'il l'a déduite de son entendement, ou bien le fait même d'accomplir les mitzvot parce qu'ils nous ont été commandés par Dieu, eh bien cette distinction-là, on la retrouve chez le Rambam que par rapport au Bnei Noach. On va nulle part chez Maïmonide, on trouve une halakha qui dit si le juif il fait mitzvah de Shabbat parce qu'il a déduit rationnellement, eh bien il y a d'autres distinctions. Mitzvah lishma veshelo lishma. Bon, il y a d'autres distinctions. Mais cette distinction-là, echrea adat, ce lachon-là, on ne le retrouve que par rapport au Bnei Noach. À tel point que Rabbi Yosef Karo, le grand commentateur de Maïmonide, il dit, voilà, je ne comprends pas d'où le Rambam il a sorti ça. Il dit, c'est une bonne svara, mais elle n'a pas d'assise dans le Talmud. Donc ça, c'est presque une invention maïmonidienne. Alors, il ne faut pas que je vous rappelle que Maïmonide, c'est le grand rationaliste juif. Donc, étonnement sur étonnement, c'est le grand rationaliste juif qui nous dit que l'universalisme noachide n'est pas un universalisme de la raison. Ce qui a beaucoup embêté Mendelssohn, ce qui a beaucoup embêté Hermann Cohen, ce qui a même embêté un petit peu Levinas, dans un texte, dans Les Imprévus de l'Histoire. Et c'est là où la postérité de cette halakha est très intéressante, puisqu'on voit que systématiquement, les penseurs juifs de la modernité reprennent ce Rambam et font exactement l'inverse de ce que Maïmonide en a fait. C'est-à-dire, ils disent, voilà, les lois noachides, c'est c'est l'éthique naturelle. C'est la raison naturelle. C'est
des abstentions, d'ailleurs, plutôt que des...
Il y a six lavis, mais il y a... Six abstentions, mais il y a aussi un mitzvah tasse, c'est de créer des tribunaux. Voilà. Donc c'est six lavis, mais un mitzvah tasse. Mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs Hermann Cohen, ce post-kantien qui a cette question, donc comment fait-on avec les mitzvot qui sont particulières, et moi j'ai Kant comme ça qui me hante mon esprit, et il fait un grand travail, la religion de la raison tirée des sources du judaïsme, où il consacre des longues pages, c'est celui qui a le plus travaillé cette question du Noachim, pour justement justifier l'idée selon laquelle voilà, le rationalisme suffit pour être considéré. C'est-à-dire l'éthique dans le sens universaliste, ou l'universalisme éthique, pour reprendre cette distinction qui est, je suis d'accord, très importante, la distinction entre l'universalisme théorique et l'universalisme éthique, eh bien cet universalisme éthique, eh bien elle est absolument immanente. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Or, c'est pas le sens du Rambam. Et dans un débat très intéressant entre Mendelssohn et Rabbi Yaakov Emdin, on retrouve un peu cette voix étouffée de la Gemara, complètement reprise dans un sens contraire à l'origine. Du texte de Maïmonide, c'est-à-dire que les penseurs juifs de la modernité, je vous en cite trois, puisqu'il y en a trois où c'est dit clairement, il y en a quatre en fait, Eliyahu ben Amozeg, qui fait un grand livre qu'il faudrait en fait rappeler, qui a fait un livre qui s'appelle Israël du Maïmonide, donc il a fait la question de l'universel sans le faire, lui aussi reprend ça, ils disent tous, voilà, les Noachites, c'est simplement voilà, l'éthique naturelle et l'éthique rationnelle, etc., etc. Donc ça, donc j'aurais dit, c'est pas qu'il y a, différents niveaux, mais il y a un aspect fondamental qui est celui de l'être pour le commandement. Et l'être pour le commandement, c'est un rapport à la transcendance qui peut être médié par la raison. C'est le chidouche, j'aurais dit, du Rambam. C'est possible de le faire be'chréadat. C'est possible de déduire rationnellement ces commandements, sinon le Rambam n'aurait pas fait ces distinctions. Or, il fait ces distinctions justement pour nous dire qu'il ne faut pas déduire rationnellement. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'il ne faut pas, mais celui qui accomplit ces lois parce qu'il les a déduites rationnellement n'est pas un chassid de Umot HaOlam. Il est Mi-Chachmeim Velok. Bon, il y a tout un débat. Disons, il fait partie des sages parmi les nations, mais pas des chassidim. Et donc, il n'a pas part au monde qui vient. Donc ça c'est important, en tout cas pour moi. Et là je rebondis sur le début de tes remarques sur Saint Paul, Spinoza, et peut-être là j'aurais un autre différent avec Jean-Michel Savansky. Il y a ce désir d'universalisme. Ça je le reconnais, c'est-à-dire ça on le voit. Il y a un désir juif de l'universalisme. Ça c'est un désir qui m'intéresse, c'est-à-dire je vois ça, il y a un désir d'universalisme, c'est un désir de rationalité, en effet, ce que tu appelles l'universalisme théorique, mais là justement, et là je pense qu'il échoue en fait, il échoue, c'est-à-dire moi j'aurais pensé le drame de l'élection, je ne veux pas dédramatiser l'élection, je veux au contraire dramatiser l'élection, c'est-à-dire je pense qu'il y a en effet un scandale de l'élection, il y a de l'intraduisible, il y a de l'ingérable, il y a de l'indigestible, il y a quelque chose qui justement échappe à la prise de la raison. Et Lévinas parfois, ça c'est Lévinas que moi j'ai appris à aimer, c'est justement Lévinas qui, de temps en temps, parfois discrètement, c'est jamais la thèse, si vous voulez, principale, c'est toujours dans des remarques comme ça, en marge du texte, Je pense que Lévinas a senti cette tension. Je pense que ce qui est intéressant chez Lévinas, ce qui est important chez Lévinas, c'est justement qu'en effet, il fait ce geste d'universalisation. Il nous dit que l'élection, c'est l'obligation dont je fais l'expérience dans le visage d'autrui. Je suis commandé, le « tu ne tueras point » est un commandement que tout un chacun ressent au contact du visage. Et pourtant, il y a des textes, il y a des moments, et ce sont pour moi les grands moments de la pensée de Lévinas, où l'élection le retient, où il est retenu justement par quelque chose, et ce quelque chose est très important, par ce quelque chose qui lui empêche d'accomplir le mouvement d'universalisation jusqu'au bout. Et il n'accomplit pas le mouvement d'universalisation jusqu'au bout, puisqu'il sait qu'il y a eu Saint Paul, puisqu'il sait qu'il y a eu Spinoza, puisqu'il sait que ce n'est pas nouveau dans la... Saint Paul, c'est Shaul de Tarse, c'est un juif dont le désir de l'universalisme, ce que Sartre appelait la passion pour l'universel, quand il décrit le juif inauthentique, il parle de la passion pour l'universel. Je pense que Lévinas est sensible à ces deux éléments-là. Il est sensible, d'une part, au fait que, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'universel, ni à l'universel théorique, ni à l'universel éthique. Ça serait s'abandonner dans un, voilà, du n'importe quoi, en tout cas pour moi. Et en même temps, on est dans l'impasse. Je pense que c'est ça le scandale de l'universalisme, ou plutôt le scandale de l'élection. C'est que le désir de l'universel, il rencontre un obstacle, ou en tout cas,
Désir juif.
Oui, je parle du désir juif. Et on a des exemples de ce désir, si vous voulez, de ce désir qui veut sacrifier tout pour atteindre l'universel. Ça serait Saint Paul, ouais. Et sous une autre version rationaliste, ça serait Spinoza, qui lui aussi nous propose une notion de l'élection, ouais. Tu l'as rappelé, quand il nous dit « Deus sive natura », Dieu c'est la nature, ou Dieu ou la nature, son grand principe, c'est ce qui résume un petit peu son ontologie, c'est ça l'élection, tout est voulu par Dieu, tout émane de Dieu, c'est-à-dire, tout est élu. Voilà, nous avons une définition philosophique de l'universalité. Si vous voulez, de l'élection.
Mais c'est intéressant sur Saint Paul, dans le livre, dans ton livre, il y a cet abord de Saint Paul par Jacob Emden, qui explique que la volonté d'universalisation du juif Paul de Tarse est tellement forte qu'il sait qu'il est interdit à un non-juif de faire le Shabbat complètement, il est interdit à un non-juif d'être circoncis sans accepter le joug de la Torah et des mitzvot, et par conséquent, il invente en quelque sorte le baptême, qui remplace un peu la Brit Mila, et le dimanche, qui remplace le Shabbat. Et donc il y a cette volonté, en gros, dans l'universalisme non-juif, ça reste de l'universalisme juif, d'une certaine manière.
Oui, mais ça, c'est un coup de force de Jacob Emden.
C'est-à-dire, il a quand même dit... Pour plaire aux chrétiens à l'époque,
bon, en tout cas, c'est un texte tout à fait... Mais... Alors, juste, j'ai introduit le texte très brièvement. C'est un texte qui s'appelle Resen Mathe. Et là, Jacob Emden, en fait, nous propose une lecture de Saint Paul. Et il fait des lectures. Vous savez, Jacob Emden, c'est un des plus grands talmudistes du XVIIIe siècle, autorité rabbinique, talmudiste, etc. Et il lit les évangiles. Et il lit les apôtres. Il lit Saint Paul. Il lit et il commente le Nouveau Testament. Et c'est là le coup de force pour nous dire qu'en vérité, Saint Paul, c'est celui qui a concrétisé l'universalisme juif. Pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, et il n'est pas venu pour abolir la loi, mais simplement pour donner une autre loi aux nations. Bon, c'est une lecture tout à fait originale. Aujourd'hui, il y a des nouvelles lectures de Paul qui vont dans ce sens. Ceux qui sont un peu versés dans ce domaine savent qu'il y a un savant qui s'appelle Sanders, aux États-Unis, qui fait des lectures comme ça, comme quoi la critique de la loi de Saint Paul n'était pas vraiment une critique de la loi juive, mais simplement toutes sortes de lectures comme ça, tout à fait. Mais Rabbi Yaakov Emdine fait cette lecture-là, mais pas pour dire que l'universalisme est catholique, dans le sens que tu as évoqué au tout début, mais pour dire que Saint Paul était le premier noachide. Ou en tout cas, lui ne pas, puisque lui était juif, mais c'est lui qui est venu retraduire que le christianisme est un noachisme. Et donc même quand on trouve une religion qui est universaliste par vocation, eh bien en vérité, pour nous juifs, c'est un noachisme. On ne connaît pas d'autres versions de l'universel. En tout cas, pour bien quand même dire.
Mais finalement, Jean-Michel Saint-Lansky, vous êtes l'illustration de ce désir juif d'universel. Parce que vous êtes en même temps parcouru par la rigueur de la philosophie analytique, par l'audace de la philosophie post-68 avec Lyotard, qui a été un peu votre maître, et puis aussi, vous l'avez dit, parcouru par le frisson lévinassien et sans doute par le désir de transcendance. Alors, peut-être que vous n'êtes pas un universaliste, peut-être que vous êtes un humaniste, mais comment définir ça ?
Oui, merci pour la relance. Je voulais...
C'est mon rôle.
Comme Élie a, d'une façon affectueuse, j'ai trouvé, évoqué nos désaccords possibles, je voudrais commencer par... Mais je vais aller très très rapidement parce que je voudrais surtout parler des résonances du fait juif. Mais donc je voudrais réagir à ce qu'il a dit. Bon, d'abord, j'ai dit comme lui sur les lois noachiques, hein, puisque mon interprétation c'est que les lois noachiques, ça prouve que du point de vue juif, que le fait de l'humanité ce soit la transcendance, ça vaut pour tout le monde. Et donc l'idée de comprendre les lois noachiques comme... une loi immanente, les lois naturelles, etc. C'était pas du tout le point de vue. Mon point de vue, c'était que on connaît la transcendance du commandement aussi, d'après ce qui est indiqué dans cette conception juive des lois noachiques. Deuxièmement, évidemment, ce que je comprends en vous écoutant, soit parler du désir d'universel, soit envisager la raison comme quelque chose qui serait une instance immanente, qui produirait tout et qui connaîtrait rien de l'extériorité de la transcendance du commandement, moi je me reconnais pas du tout. Déjà, le désir d'universel, c'est une formulation qui me gêne. L'universel est de l'ordre du commandement qui nous emmerde. C'est pas quelque chose que je peux désirer. Au contraire, je suis terriblement emmerdé par l'exigence d'universalisation. Quand Einstein veut que les équations soient covariantes par toutes les transformations et pas simplement les galiléennes, c'est dur. Bon, trouver le nouvel universel qui est plus universel que la structure de groupe, c'est horrible.
On peut avoir du désir pour quelque chose d'exigeant, comme les gens mariés.
C'est pas. Quand même, la formulation désir d'universel, ça nous présente ça brusquement comme une sorte de laisser-aller anthropologique. C'est pas du tout ça. En fait, le grand rationalisme, celui qui est justement qui ressent la grandeur de l'universel et l'enjeu de l'universel, c'est une des façons dont l'humanité expérimente la transcendance. Et en fait, les gens qui sont vraiment pour l'immanence, ils n'aiment pas le rationalisme. Et c'est justement ce que la philosophie du XXe siècle a démontré extraordinairement. Ils n'aiment pas le vrai rationalisme. Ils aiment juste une argumentation locale où on se tire d'affaires. Mais la vraie exigence de trouver un langage qui transcende, elle vient d'un commandement. Donc je voulais clarifier ça. Mais maintenant j'en viens à ce qui m'importait, qui était l'affaire de la résonance du fait juif. Parce que ce dont j'ai discuté d'abord, et ce dont on a discuté, il me semble, en général, c'est la question de savoir si le laboratoire de l'étude observance, il a une signification universelle pour l'humanité. Et cette signification universelle, elle est au niveau de la justice, de l'éthique. Bon. Donc c'est la question de savoir s'il y a un pont entre la poursuite du juste et du moral, qui est celle du laboratoire, et l'idée d'une poursuite au niveau de l'ensemble de l'humanité. D'accord, on peut discuter de ça. Mais moi, je vois un autre niveau d'universalisation du projet juif. Et c'est ce que j'appelle la résonance du fait juif. Et donc ça, c'est l'idée que de ce qui a cours à l'intérieur du laboratoire de l'étude observance ressortent des tonalités existentielles qui peuvent être entendues par tout le monde et qui peuvent séduire tout le monde. Et ça, c'est ce que j'appelle les résonances du fait juif. Là, on n'est plus, en fait, dans l'affaire de l'éthique et de la justice. On est dans l'affaire de l'existence, en quelque sorte. Et donc, dans mon livre, je cite trois mots dont chacun desquels, selon moi, a cette résonance universelle au niveau de l'existence. Et ce sont les mots mémoire, concret et humain. Alors, le mot mémoire, je lui consacre le développement le plus long. Je commence par essayer de faire entendre aux gens que sans la mémoire, nous ne sommes rien. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est complètement oublié dans l'humanité contemporaine. Que s'il n'y a pas de mémoire, eh bien, quelle est notre situation? On est dans le flux héraclitéen. On peut juger que la vérité de l'être, c'est le flux héraclitéen. On peut estimer que le tout coule, tout passe, tout se transforme, tout change, c'est la vérité ultime, la meilleure, celle dont on est le plus sûr, de l'être. Mais s'il n'y a que ça, nous perdons tout. Nous ne pouvons plus donner d'identité à la moindre de nos pensées, nous ne pouvons plus discuter sur une institution, sur un objet, sur un lieu, sur un poème. On ne peut plus discuter de son cousin, on ne peut plus discuter de son étudiant. Tout ça, c'est des stabilités relatives. Et donc, tout ce qui peut être thème partagé pour l'exercice de la vie humaine, c'est forcément des choses qui sont gagnées contre le flux héraclitéen, et ça passe par la mémoire. C'est la mémoire qui constitue ces entités stables, qui nous sauvent de la fuite absolue. Donc d'abord, c'est mon premier point. Et donc, je lutte contre la tendance contemporaine à valoriser uniquement la transformation du monde. Quand on regarde les discours qui circulent le plus et que mes étudiants aimaient le plus, je les aime, mes étudiants, mais les discours qu'ils préfèrent, c'est les discours qui nous racontent que nous sommes dans une situation et nous avons dépassé cette situation et nous allons vers des choses inouïes, nous allons construire de l'absolument nouveau, etc. Et donc tout le frisson de l'existence humaine serait ramené à cette puissance de transformation et d'innovation radicale dont nous serions porteurs. Et donc ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que l'innovation, la transformation, le dépassement, c'est toujours mesuré par rapport à la situation, et donc ça nous renvoie au présent. Et donc ce point de vue de la transformation et du futur et de l'avenir, c'est en fait un point de vue du présent. Et que si on a le point de vue de la mémoire, c'est-à-dire que la conservation du passé, fût-il un passé immémorial, est quelque chose qui a un prix infini, parce que c'est ça qui nous met dans le partage humain, dans le partage des symboles, dans le partage des thèmes, dans le partage des personnes. Si on comprend ça, à ce moment-là, on peut avoir un rapport au passé qui dépasse le présent et un rapport au futur qui dépasse le présent, et ça, c'est le messianisme, justement. Bon. Alors, j'essaie d'expliquer dans le livre comment la tradition juive a complètement conservé cette idée de cette valeur de la mémoire, de cette centralité de la mémoire. D'abord, le simple fait d'être juif, c'est une mémoire. Toute l'étude juive, elle est une mémoire, parce que les nouvelles cogitations des décisionnaires et des chachamim successifs, elles passent toujours par la mémoire de l'ensemble des textes reçus, et Dieu sait que c'est accentué et valorisé. Je raconte aussi l'histoire du Baal Shem Tov dans le livre. Quand vous m'aviez demandé de lire un texte, j'aurais pu lire ce passage. L'histoire de la technique pour se tirer d'une situation difficile qui consiste à aller dans un certain lieu d'une forêt où on fait une certaine prière et alors on est tiré de la situation difficile où on était. Donc ça, c'est ce que faisait le Baal Shem Tov, et ensuite on nous raconte une succession de chassidim qui viennent après le Baal Shem Tov, et le premier, il se souvient juste du lieu dans la forêt, mais plus de la prière, et ça marche quand même. Et finalement, on arrive à quelqu'un qui a oublié à la fois le lieu dans la forêt et la prière, mais il se souvient de l'histoire et c'est encore suffisant. Donc là, on a un exemple fort de cette valorisation de la mémoire. Et donc, j'essaie d'expliquer aussi comment, dans le monde non juif, on a des manières de reconnaître cette grandeur de la mémoire. Et je cite le rapport aux parents, le rapport aux enseignants. Je cite l'idée psychanalytique de ce que c'est qu'une trajectoire humaine. Bon. Donc ça, c'est mon premier mot, mémoire. Le deuxième, c'est concret. Et donc, ce que je mets dans concret, c'est d'abord, tout simplement, l'idée que notre existence, elle est accrochée aux petits détails qui la jalonnent et qui sont tout pour nous. Et donc, j'essaie de donner des exemples. J'essaie de prendre l'exemple des choses qu'on reconnaît quand on circule dans les lieux qui environnent notre maison. Les petits détails des choses qu'on reconnaît, ça fait partie de ce qui nous porte et de ce qui nous fait vivre. Je cite aussi le fait que quand on a le moindre problème de santé, même un tout petit problème de santé, ça fait chavirer notre vie. On a l'impression que tout est perdu. Donc j'insiste sur le fait que prétendent être au-delà du concret en ce sens-là, hein, de la petite chose qui pour nous est infinie, personne ne le peut. Hein, et donc je pense que la tradition, et en particulier même la discussion talmudique, a ça en tête, que les grandeurs, les formulations grandioses auxquelles on va arriver dans notre discussion sur la loi, si elles oublient le poids chavirant de ces petits détails, elles sont nulles et inavenues. Hein. Et donc la difficulté, c'est de voir ça et en même temps de ne pas tomber dans l'anti-intellectualisme, qui est une tendance terrible, très très forte, qui atteint les gens sans arrêt. Hein. Les gens tombent comme des mouches sous la menace ou la puissance de l'anti-intellectualisme. De nouveau, l'intelligence talmudique, pour moi, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui réussit à continuer à jouer la carte du grand rationalisme et en même temps respect devant le petit détail qui ne fait chavirer nos vies. Et dernier mot de cette résonance du fait juif, humain. Hein, dans mon premier livre, celui de 2003, qui avait ce titre bizarre qui était Extermination, loi Israël, je disais que je comprenais le judaïsme comme le projet de s'enfermer dans le niveau humain. Hein. Et donc ça va avec ce que vous citiez tout à l'heure, que la transcendance est la chose la plus immanente du monde. C'est pour récupérer justement l'absolu de la transcendance, il faut refuser de valoriser l'être étranger. L'être étranger, que ce soit le théologique, que ce soit la nature, c'est ce qui nous met dans l'immanence, contrairement à ce que les gens croient. Et donc si on veut expérimenter le commandement qui est infiniment supérieur à nous, il faut être dans la strate humaine. Donc à ce niveau-là, ça veut dire pour moi, humain, encourager toutes les modes d'infinitisation qui sont donnés dans la vie humaine. Et là, effectivement, je cite la science, l'art aussi, hein, qui sont aussi des modes d'infinitisation qui appartiennent au, bien compris, ils appartiennent au plan strictement humain, et au plan strictement humain, ils sont des modes de la transcendance pour nous et par nous. Voilà, j'ai fini, je crois.
Eh bien, je vous félicite. Et à moins que Elie Schoenfeld ait une conclusion, nous allons conclure, mais peut-être que nous allons écouter quelques questions, parce que, après tout, vous êtes des juifs et vous avez droit à un certain nombre de questions, pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Oui, alors, on vient de me glisser à l'oreille, Israël, oui ou non ? Est-ce qu'on va parler d'Israël dans le problème de l'universalisme et de la vocation d'Israël? Je crois que Jean-Michel Salansky en parle dans son livre, Elie Schoenfeld moins, mais il le vit visiblement. Est-ce que vous voulez relancer sur ce thème-là pour conclure?
Le livre de Mendelssohn s'appelle Jérusalem. Et j'étais frappé aujourd'hui, hier, Shabbat, mais en entendant les cloches des cathédrales. Je suis européen de naissance, je viens d'Anvers. Donc ces cloches ne sont pas étrangères. D'ailleurs, à Jérusalem aussi, il y a des cloches. Mais ici, à Paris, j'entendais que les cloches. À Jérusalem, on entend les cloches, le muazzin et Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, on entend la sirène. Et je me suis mis à réfléchir sur ces trois sons de cloches, ou ce muazzin, cette prière, ou la sirène. Et pourquoi j'en parle ? Parce que ça, c'est pas sans rapport à la question de l'universalisme. Parce que c'est quoi un son de cloche ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand dans les cathédrales on fait résonner ces sons de cloche qui ponctuent l'heure ? C'est pas mal quand on est Shabbat et on se balade et on n'a pas l'heure et on peut compter les sons de cloche. Mais bon, ça pourrait amener une réflexion sur la question du temps, de la temporalité. Rosenzweig en parle très bien, et encore une fois. Mais il y a, si vous voulez, l'espace public est investi d'un son qu'on ne peut pas éviter et qui, on sait tous d'où il provient. Il provient du haut des cathédrales et il nous indique l'heure, ce qui est une certaine référence, un repère. Voilà. Et ça, je le connais de mon enfance, de ma jeunesse. ce son de cloche, cette universalité chrétienne, c'est-à-dire qui s'empare de l'espace public par le son. Et le muezzin aussi, c'est une pratique qui est inscrite dans les règles de l'islam, qu'on annonce les prières 5 fois par jour. Et ça envahit comme ça la sphère publique. Ce sont deux formes de, si vous voulez, d'universalisme, c'est-à-dire deux manières d'investir le domaine public, d'investir le domaine du tout le monde, par l'intermédiaire d'un son qui provient d'un lieu saint, d'une cathédrale ou d'une mosquée. Et je me suis fait la réflexion que la sirène du Shabbat, ça n'existe nulle part. C'est-à-dire c'est une invention. C'est une invention, disons, israélienne, sioniste, qu'on annonce l'entrée du Shabbat avec une sirène. Et du coup, j'ai trouvé ça, j'ai vécu cette sirène, même que je ne l'ai pas entendue avant-hier, puisque j'étais ici, mais du coup, j'ai senti à quel point il y avait quelque chose qui était de l'ordre, si vous voulez, qui venait d'autre part, qu'Israël avait adopté une manière de faire, une manière d'investir le domaine public par rapport à la chose religieuse, par rapport à la chose juive, et qui est d'annoncer le Shabbat avec une sirène. Moi, j'aime bien le Shabbat quand il rentre dans le calme. C'est-à-dire, il y a comme ça, Agave, la question de la mémoire, du souvenir, il y a un souvenir tout intérieur, on n'est pas rappelé de l'extérieur, certainement pas par... Voilà, je me suis fait la réflexion. En plus, aujourd'hui, il y a toute une législation en Israël autour de ces moazines, ces chok moazines, la loi du moazine. On essaye d'interdire le moazine. Et je me demande, quelle sorte d'universalisme à quelle sorte d'universalisme ça fait écho. Donc, j'ouvre cette réflexion sur Israël par une petite méditation que j'ai eue hier, Shabbat, autour des sons de cloche, et je laisse la question ouverte, je ne sais pas où ça mène.
Oui, moi dans mon livre je parle d'Israël, mais c'est essentiellement expliquer Israël, c'est-à-dire expliquer que les Juifs sont un peuple, et donc tout mon livre essaie d'expliquer que le prisme de la religion est mauvais. Donc il n'y a pas à se scandaliser du fait qu'on ait un État attribué à une religion, c'est l'État d'un peuple, c'est-à-dire c'est normal comme configuration. Aussi, j'insiste sur le fait que l'État d'Israël, c'est l'État qui a la mission de protéger l'étude d'observance. Donc c'est plutôt, je ne réfléchis pas vraiment sur la question de l'universalisme posée par rapport à l'existence de l'État d'Israël. Si je devais réfléchir là-dessus, ce qu'on a envie de dire, évidemment, c'est que l'existence de l'État d'Israël, c'est de nouveau la concrétisation dans les formes institutionnelles de tout le monde de la séparation du projet juif, du fait que c'est un laboratoire séparé, c'est concrétisé dans un État. Mais en même temps, comme tout le monde l'a toujours remarqué, ça met le peuple juif dans la situation commune, ou disons alors peut-être pas celle de tout le monde, mais ça ressemble à la situation des Italiens, pour prendre un peuple qui est à la fois un État et une diaspora. On rencontre partout des Juifs dans le monde, mais aussi partout des Italiens, si vous avez remarqué. Donc voilà, c'est peut-être une occasion de retrouver le fait que justement, l'affaire de l'universel, elle est logiquement plus compliquée que ce que les gens croient.
Alors, pour les choses compliquées, on peut se promener, même le Shabbat, non, pas forcément, mais en tout cas, on peut se promener avec ce livre, Le Fait Juif, de Jean-Michel Salansky, où vous l'avez entendu, il y a une pensée très précise, très orientée, et qui permet vraiment de se repérer dans cette vaste galaxie qu'est la pensée juive. Et puis, le livre de Elie Schoenfeld, L'Apologie de Mendelssohn, qui est un livre dont chaque page ouvre des tas de portes, et pas seulement les portes dans lesquelles sont rentrés les traducteurs de la Septante. Alors, nous écoutons vos questions, ou sinon, nous écoutons votre silence.
Alors, simplement, avant de passer aux questions, je voudrais remercier Jean-Michel Salansky et Eli Schoenfeld et Ariel Wiesmann qui est venu comme ça un petit peu au pied levé. On a fait ça assez rapidement, en 2 semaines, d'avoir accepté cette invitation. Cette invitation, ce débat, c'est un peu la continuité de ce qu'essaye d'entreprendre Poilétique. Avec l'an dernier, les conférences entre Marcel Gaucher et Dan Arbib et le professeur Henri Atlan et Laura Bourriat-Lavigès. Poilétique, chapeauté par un comité scientifique composé de Robert Einstein, Claude Rivlin, Nicolas Veil, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, et Joe Toledano. En outre, cette année, on a commencé un petit séminaire privé dans un premier temps. Sur le rôle de la politique et de la loi. Et je crois que quand même cette conférence était quand même assez importante pour s'inscrire même dans ce séminaire. D'ailleurs, Jean-Michel Salansky nous a fait le plaisir de venir à la première séance et je souhaite de tout cœur qu'il continue avec nous prochainement. Voilà, donc j'espère que cette séance, elle a apporté quand même un nouvel éclairage sur... la schizophrénie juive entre un désir d'universel.
On avait oublié ce mot-là. On aurait dû le casser.
Et la singularité. Voilà, on va passer aux questions.
Mais il n'y a pas assez de fil. Donc, on va poser des questions fortes. Et... s'il y a du fil, ok. Ok, à vous. Si vous ne posez pas de questions, ça veut dire qu'on a tout dit vrai à 100%. Donc.
J'ai trouvé que l'exposé de M. Salansky sur l'exigence de l'universalisme contenait en lui-même une certaine violence. Je l'apparente peut-être à la mondialisation, c'est-à-dire j'écrase tout particularisme, qu'il soit fondé ou pas fondé. Et alors, j'ai essayé de raisonner au travers du prisme de la perception juive, et je me suis rappelé cette phrase que Yehusha Leibovitch, maïmonidien s'il en est, avait à propos du projet messianique. Et il disait, dans le messianisme, ce qui compte, ce n'est pas tellement son arrivée, mais c'est son attente. Est-ce qu'on ne pourrait pas paraphraser Yehusha Leibovitch et dire, finalement, dans l'universalisme, ce qui compte, ce n'est pas le fait d'y arriver, de l'atteindre, mais c'est le fait de faire un mouvement oscillatoire entre le particularisme, un mouvement de va-et-vient entre le particularisme et l'universalisme. Un peu comme le projet juif a comme exigence de passer du nomadisme à la sédentarité.
Oui, mais moi j'ai peur parce que j'ai été décrit comme violent, donc si je recommence. mais disons que j'ai essayé de présenter l'universel comme quelque chose de non acquis. J'ai essayé de dire qu'on croit avoir remporté un grand succès en ayant dégagé la structure de groupe, mais c'est pas fini. Donc l'universel, c'est quelque chose de jamais acquis, de pas fini. C'est une exigence, justement. Alors, la mondialisation, on la décrit toujours comme accompli. Mais si on commence à envisager la mondialisation comme une exigence, c'est-à-dire on voudrait avoir une structure de l'humanité qui soit pertinente, légitime, juste et qui englobe tout être humain, à ce moment-là, on n'y est pas. On l'a pas du tout. Et donc la mondialisation, ça n'a rien à voir. Donc moi, c'est ça que j'essaie de rappeler, que l'universel, c'est un enjeu. C'est tout.
Qui d'autre a trouvé Jean-Michel Salansky violent?
Et pour quelle autre raison?
Qui veut se battre avec lui?
C'est juste un tout petit détail à propos du son comme universel, des tonalités disons, différentes entre l'islam, la chrétienté et le judaïsme. vous aviez l'air d'indiquer que c'est le silence qui semble caractériser le judaïsme, mais il me semble, enfin je voudrais vous indiquer que très souvent on annonçait le Shabbat par le son du chauffard. On marquait la. Donc je renvoie le chauffard.
Ah oui. Vrai.
Non, mais ça, c'est, merci pour cette indication. Mais moi, je vous posais la question, est-ce que c'est indiqué dans les textes juifs, ou bien c'était juste des us et coutumes, on faisait ça, ou d'ailleurs, je ne sais pas.
Oui, c'est pas une indication légale.
Ah, mais d'accord. Je dirais quand même qu'il y a une différence entre le son du chauffard et la sirène. La sirène en Israël, ça renvoie à d'autres choses. C'est la même sirène qui retentit les jours de Yom HaShoah et Yom HaZikaron. C'est cette sirène qui retentit Yom HaShoah. Voilà.
Oui, Monsieur Salansky parlait d'enjeux à propos de l'universalisme. Monsieur Schoenfeld, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui semblait vous différencier, même si Monsieur Salansky après a émis des réserves, sur l'universalisme de la raison et sur l'universalisme de la transcendance? Parce qu'il m'a semblé que là, il y avait quelque chose quand même qui était assez fondamental et sur lequel on est passé un petit peu vite, et j'aurais aimé que vous développiez ça, parce que il me semble que c'est proprement juif, à mon sens. Et donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, si c'est possible. Merci.
Bon, je ne vais pas parler à la place de Jean-Michel Salansky, qui est là, qui va peut-être répondre à son tour. Je peux dire, en ce qui me concerne, et je comprends que sa notion à lui, elle est autrement plus complexe que l'avenir dont moi je vois les choses, et telles que je les comprends à partir du texte du Rambam, de Mendelssohn, de Cohen et de Levinas, très, très brièvement dans un petit texte. Et pour parler des Juifs, et d'un autre côté. Si vous voulez, Spinoza comme représentant plus fort d'un type d'universalisme qui serait l'universalisme de la raison, ou bien Kant quand il parle d'universaliser une maxime comme critère pour la loi morale. Et je reviens à cette distinction du Rambam. Qui dit, voilà, echreadat, ça veut dire quoi echreadat? Ça veut dire qu'on peut déduire rationnellement l'interdit de tuer. On pourrait le déduire rationnellement, ce serait assez simple de le faire. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller chez Kant pour le faire. Kant, dans son éthique, je pense que la maxime « tu ne tueras point » est facilement universalisable et donc fait acte de loi morale. Fondé en toute raison, en toute philosophie, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam quand il nous dit « Mais non, mais ça, ce n'est pas la voie. » Il ne veut pas dire que le rapport à l'universel raisonnable a une origine transcendante, ou bien qu'elle a cet aspect où ça commande. D'ailleurs, chez Kant aussi, il y a ce commandement. Je vous rappelle quand il dit « Voilà, il y a un commandement de la raison pratique. » il parle du respect de la loi par rapport à la loi morale. C'est-à-dire ça, ce n'est pas étranger à Kant, qui est peut-être celui qui a pensé le plus loin cette question de la loi morale ou de l'éthique pensée rationnellement ou universellement fondée dans l'universalité. Donc, je pense qu'il s'agit d'autre chose chez chez le Rambam, quand il nous suggère qu'il faut que ça soit entendu, mais là pas par l'entendement mais par l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a un rapport, si vous voulez, à la parole qui précède l'entendement. Après, ce n'est pas que la parole doit être, il y a après le processus de l'entendement, justement. Je ne crois pas que je vous rappelle ce qu'on a lu il y a quelques semaines dans la paracha, cette fameuse formule du Naase v'Nishma. Il y a un Nishma, et il y a cette rationalité propre au Talmud. Simplement, elle ne conditionne pas. Ce n'est pas elle qui oblige. Elle s'adosse à voilà, un rapport premier qui est celui de... Lévinas appelait ça la passivité du sujet. Le fait d'être tout oui. D'être tout oui. Il y a une parole qui me précède. C'est s'inscrire dans la mémoire de cette parole. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est formulé chez le Rambam. On est rappelé au Sinaï qu'il y a une parole qui était dite avant. Qui est un commandement qui nous a été donné dès avant le Sinaï lui-même. Ce pré-originaire, comme aurait dit Lévinas, eh bien il y a ici un événement de subjectivation qui est, en tout cas tel que moi je l'entends, qui est tout à fait différent de celui qui passe par la raison, par les mathématiques, par la physique, par l'universelle logique.
D'ailleurs, c'est intéressant, je voulais citer tout à l'heure ce passage, page 116 dans votre livre, dans lequel Emden lit Rabbi Yehoshua et explique qu'est-ce qu'un rachat, c'est celui qui oublie. Celui qui oublie qu'on ne tue pas, celui qui oublie qu'on ne vole pas. Et là-dessus, voilà un très très beau point d'accord entre les deux, puisque cette mémoire, ce détail et cette entente d'une parole qui est avant, c'est l'essentiel et c'est là que se situe l'étude observance, en tout cas l'observance à coup sûr. Voilà, merci à tous, à moins qu'il n'y ait encore d'autres interrogations.
On continuera au buffet.
Voilà, très bien, on parle ensemble. Merci.
Merci d'avoir accepté. Comment ? Merci d'avoir accepté.
Ah, mais je t'ai invité.
Merci, c'était...